Bonjour, merci Madame Coste, Monsieur Zambon de nous avoir invités à participer à cette formation. Je suis Gabriel Rota avec mon collègue Dominique Duez. On est responsable du lycée hôtelier La Vido d'Assa Général. C'est un micro-lycée professionnel qui pourrait être qualifié de social parce qu'on est en même temps établissement social et lycée professionnel sous contrat, mais sans obédience religieuse, on est du secteur associatif. Donc le lycée se propose de prendre en charge une quarantaine d'élèves qui sont tous décrochés du système scolaire ou pas loin et de les remobiliser à travers la formation professionnelle en cuisine et service en restaurant. Donc pour ce faire, on a toute une procédure d'admission qu'on pourra discuter tout à l'heure si vous voulez. On a un restaurant d'application ouvert au public tous les jours. C'est que les jeunes se confrontent tous les jours à des clients de restaurants comme ça se fait de partout. Et on a une équipe d'enseignants disponibles, je dirais, pour prendre en charge ces jeunes qui sont souvent en très grande difficulté, et scolaire et sociale. Une des particularités de cet établissement, donc c'est à la fois un établissement social, donc comme dans tous les établissements sociaux, il y a une procédure d'admission particulière qui n'a rien à voir avec un lycée professionnel traditionnel. Les jeunes nous sont orientés soit par des assistantes sociales scolaires qui vont orienter les familles ou le jeune auprès des services du département. Qui, selon l'état dans lequel est le jeune, va décider de prendre en charge ou pas, et éventuellement de venir nous le présenter, si il décèle une quelque motivation pour la restauration. De notre côté, la procédure d'admission, donc, elle va déjà se faire par téléphone, et si on estime pouvoir construire quelque chose pour le jeune, on va le recevoir dans un premier entretien d'admission qui va durer à peu près une heure et demie, où c'est qu'on va rencontrer et le jeune, et la famille, et le travailleur social qui nous le présente, enfin tous les partenaires qui vont travailler autour du jeune. Pendant ce temps-là, on va présenter au jeune ce qu'on peut faire dans cet établissement. Ça va se faire pendant un temps scolaire où c'est qu'il voit les autres jeunes en activité. Et on va essayer de comprendre et de préciser si on va pouvoir travailler avec ce jeune. À l'issue de cet entretien, si on estime pouvoir faire quelque chose et que le jeune est volontaire pour venir essayer, il va venir 2 jours en essai. Donc il va passer successivement une journée en classe et une journée en atelier technique, au choix cuisine ou salle. Et à l'issue des 2 jours, l'équipe pédagogique va se rencontrer. Et on va voir quel projet on peut proposer à la famille et aux jeunes en vue de la signature d'un contrat, puisque une autre particularité, c'est qu'on va signer un contrat entre le jeune, sa famille, les travailleurs sociaux. Je dis les travailleurs sociaux parce que ça peut être, il y a à la fois ceux du département et à la fois éventuellement ceux du foyer si le jeune est mis en foyer, et nous-mêmes. Donc le jeune, au moins dans la démarche, va montrer qu'il a envie de venir. La famille va au moins essayer de dire qu'elle va essayer de le faire venir. Les travailleurs sociaux s'engagent à mettre les moyens à suivre la mesure. Nous, on s'engage à donner une formation adaptée aux jeunes, en fonction d'où il en est, etc. La scolarité va se développer, ça va durer 2, 3 ou 4 ans selon le cas, selon la période à laquelle le jeune va rentrer, parce que les admissions sont possibles toute l'année en fonction du remplissage des classes. Et donc elle va durer 2 ou 3 ou 4 ans selon l'âge d'arrivée, selon comment le système est opérant sur le jeune. Selon les désirs qu'il a, selon son évolution, selon tous ces critères qui vont tourner surtout autour de son évolution. Quoi.
Voilà.
Donc on prépare les CAP employés de restaurant et cuisine. Récemment on faisait encore le BEP. Et depuis la rénovation, ben, on s'attaque au bac pro pour quelques-uns. Donc cette année on a ouvert une première bac pro, pas une seconde, une première, puisque tous les jeunes qui sont inscrits dans cette formation ont déjà un CAP. Donc, Donc l'ensemble du lycée fait à peu près 40 élèves, à quelques-uns près, et ils sont répartis en général en 5 classes. Donc 5 à 8 à 10. On essaye de ne pas dépasser 8 si c'est possible, parce qu'après ça devient trop compliqué pour que le travail soit suffisamment individualisé. Le travail est très individualisé, donc il y a vraiment une pratique particulière à travailler auprès de ces enfants, quoi. Bien sûr. On est lycée sous contrat, normal, on va dire. Ce qui ne nous arrange pas, je ne sais pas ailleurs, mais ce qui complique beaucoup l'organisation pour un micro-lycée, quoi.
Le CCF, pas le contrat.
Donc les élèves sont demi-pensionnaires, obligatoirement, puisque le temps du midi est un temps important de socialisation. Ils sont tenus à déjeuner avec les enseignants, enfin l'encadrement, etc. On déjeune tous ensemble. Donc ils sont tenus de se tenir comme il faut, etc. C'est tout un travail qui commence le matin jusqu'au soir. Le temps de classe, il va de 8h30 le lundi à 16h le vendredi. Alors les enseignants, on va dire une douzaine d'enseignants. Ils ont des parcours diversifiés, puisqu'on en a qui étaient à l'origine de l'école avant que ce soit un lycée. Sur le côté social, on est sous la convention collective hospitalière 51. Donc, ce ne sont pas les mêmes métiers que dans un LP, on va dire. Et donc, mais par contre, ils étaient déjà enseignants. Donc, ceux qui faisaient du scolaire étaient instituteurs, on va dire. Et les autres étaient moniteurs d'atelier ou éducateurs techniques ou spécialisés ou enseignants spécialisés, donc dans le registre de la 51. Et sinon, on a des enseignants qui sont rentrés par concours, on a des maîtres auxiliaires, etc., quoi, comme ça peut se trouver ailleurs. Sauf qu'il y en a un petit peu de chaque et qu'on n'est pas nombreux, quoi. Et avec quelquefois des doubles statuts, des statuts et éducation nationale et association. Donc ce qui est un peu compliqué administrativement, je dirais. Mais bon, tout le monde accepte, quoi. Je pense que pour travailler dans un établissement comme ça, il y a une volonté de travailler sur un projet comme ça, quoi. Là, récemment, on a des jeunes enseignants qui sont venus, ils ont choisi le projet qu'on leur a proposé, quoi.
Ce matin, la MASH, pour leur période d'intégration, parlait de fort investissement de l'équipe éducative. Je pense que chez nous, c'est l'ensemble de l'équipe éducative qui doit être investie dans le projet, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. C'est trop fort, c'est trop prégnant, et on est trop près des élèves pour que ça fonctionne autrement. C'est plus qu'une remise en route, hein, pour la plupart des élèves. Il faut bien entendre qu'on est sur un versant de l'aide à l'enfance, voire dans le secteur sanitaire et social. Ah, il y a des gamins qui sont quasiment sur le versant du handicap, même si ça ne se voit pas. Et c'est un doux mélange. Donc pour que ça fonctionne un tant soit peu, il faut que les gens s'investissent très 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 fortement.
La provenance des élèves, c'est surtout localisé autour de Saint-Genis ?
Tout le Rhône, voire même de la Loire un peu. Mais on en a beaucoup de Saint-Genis, oui. Saint-Genis-Oulin, oui. C'est la majorité, mais... Parce qu'on n'a pas d'internat. On aura un internat scolaire en plus, il y aura beaucoup plus de demandes. Mais en même temps, on est tellement limité en place que ce n'est pas forcément un handicap.
Une des particularités sur le travail des enseignants, c'est que, comme la plupart des établissements sociaux, on est contraint à organiser une réunion hebdomadaire qui s'impose à tous et qui dure. Donc généralement, c'est 15h30, 19h, et toutes les semaines, tous les mardis. Et dans cette réunion sont évoqués déjà tous les problèmes qu'on a eus dans la semaine précédente, toutes les informations qui peuvent graviter autour des élèves, qu'il faut qu'on discute, etc. L'évolution, les problèmes d'absentéisme, les retards, les ci, les là, les médicaux, enfin, tout ce qui peut tourner autour des élèves. Mais au-delà, je dirais, du pédagogique. Et une deuxième particularité, c'est que, en référence à ce qui était dit d'ailleurs ce matin là, pour le lycée de la Mâche, chaque enseignant est référent à la fois d'un certain nombre d'élèves et à la fois d'une classe. Et tout le suivi que ça représente. Entre autres, pour que notre système soit opérant, on s'engage à avoir au minimum une fois par trimestre chaque élève en bilan, donc avec l'enseignant référent, la famille, les éducateurs, etc.
Tous les signataires du contrat initial.
Si nécessaire, pour certains cas plus difficiles, ça va se passer une fois par mois. Donc c'est assez lourd pour les enseignants, je dirais. Parce que ça demande une mobilisation importante, quoi. Chaque fois qu'il y a un bilan, ils doivent faire le tour de tous leurs collègues enseignants pour avoir l'avis de ce qui s'est passé auparavant, quoi. Donc il y a forcément un lien important entre tous les enseignants, qu'ils soient techniques ou scolaires, en maths, en français, astro-eux, quoi. Et c'est un dispositif, nous on y est depuis longtemps, c'est un dispositif qui est opérationnel dans la mesure où tout le monde est partie prenante de l'action. Ça va du secrétariat, la dame qui fait le ménage, le prof, le PS, tout le monde est partie prenante, tout le monde est activement amené à s'occuper des élèves et en permanence. On n'a pas de pion, par exemple. Ce sont les enseignants qui surveillent en permanence les élèves.
J'ai une question, justement. Vu l'investissement des professeurs, alors je dis rien, mais c'est vrai qu'en souvent, bon, je suis inspecteur, hein, donc, mais j'ai été pendant très longtemps chef de travaux et enseignant moi-même. Je voulais simplement poser une question sur l'investissement des enseignants. Comment se fait cette en temps, puisque ça demande du temps d'investissement, d'encadrement, etc. L'administration, enfin je dirais la direction de l'établissement, elle paye les gens comment?
Parce que, elle paye les gens avec les moyens qu'elle a.
Avec les moyens qu'elle a. Donc ça veut dire que les enseignants sont, même s'ils sont partie prenante, ils s'engagent en dehors de leurs heures de cours. Des fois ou souvent? Parce que pour avoir un travail aussi important, quelquefois, les équipes sont pas toujours partantes s'il n'y a pas un petit quelque chose derrière quand même. Hein.
L'équipe s'est constituée dans le temps et le projet est aussi constitué par l'équipe. Les gens adhèrent à ce projet. S'ils y restent et on a un turnover qui est faible, c'est qu'ils y trouvent leur intérêt. Maintenant, est-ce que c'est dans la finance ou autre chose? Faudra leur demander. Ils viendront demain.
On leur demandera.
Globalement, la DHG, elle est de combien chez vous?
Les gros mots. Globalement, je ne sais rien, DHG, c'est pas mon sujet, si vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'on trouve un équilibre entre ce que nous donne l'éducation nationale et ce qu'on a dans le privé. Voilà, donc, les enseignants, je vous le dis, vous avez deux enseignants qui vont venir demain, ils sont là depuis 20 ans. Donc, si ça ne leur convenait pas, il y a longtemps qu'ils auraient changé. Voilà, donc c'est qu'ils y trouvent leur compte. Peut-être qu'aussi, encadrement, on est peut-être plus proche d'eux aussi, et plus à les soutenir au quotidien, etc., et que tout ça, ça fait une alchimie, que ça marche. Voilà. Une des limites de notre système, c'est qu'on a 40 élèves. Si on en avait 80, je ne suis pas sûr que ça marcherait.
Mais à titre indicatif, je suis chef de service éducatif, je fais un tiers de temps de travail éducatif de base, par semaine minimum.
Ah, mais on ne dit pas que ça pourrait marcher dans le public, hein. Moi, je vous ai dit qu'au départ, on est un lycée professionnel sous contrat, mais avant d'être un lycée professionnel sous contrat, on était un établissement social. Et donc, dans un établissement social, les règles sont pas les mêmes que dans un lycée, si vous voulez. Mais en même temps, le temps a fait qu'on est devenu lycée sous contrat. Bon, ben, on a pris un peu de l'ancien, un peu du nouveau, et puis, visiblement, les gens restent et sont contents de ce qu'ils font, quoi. L'un dans l'autre, ça marche.
Une précision, parce que vous parlez d'établissements privés sous contrat, donc payés par des enseignants payés par l'éducation nationale.
Oui.
Et par ailleurs, vous parlez de conventions collectives. Donc il y a du personnel qui est payé par l'éducation nationale et du personnel qui n'est pas payé par l'éducation nationale.
Tout à fait.
Mais le personnel payé par l'éducation nationale, ce ne sont que des enseignants. Et les autres sont des éducateurs, c'est ça?
Ils sont tous enseignants, parce que justement, c'est ce qu'évoquait ce monsieur tout à l'heure. C'est qu'on a des personnels qui viennent d'horizons différents et le problème c'est de faire une équipe. Et pour faire une équipe, il faut pas qu'il y ait de discrimination possible entre les uns et les autres. Donc depuis longtemps, on a trouvé un consensus, tous ceux qui participent à l'enseignement sont enseignants. On parle pas de professeurs, on parle pas d'instituteurs, on parle pas, alors que dans les qualifications on a ça. C'est tous des enseignants et tout le monde est content comme ça.
Moi, je peux donner mon témoignage puisque j'étais la tutrice l'an dernier d'un professeur de français qui validait l'an dernier son PLP2 et donc je peux témoigner que bien qu'effectivement ce soit plus lourd que dans d'autres établissements parce qu'il y a cette dimension éducative qui est liée en grande partie effectivement à votre projet et au public accueilli, il a choisi de rester une fois validé dans l'établissement.
C'est un autre travail. Moi, je dirais que c'est un autre travail. Quand vous avez en classe une classe de 5 élèves, vous n'avez pas une classe de 28. Donc, c'est autre chose. Mais quand vous en avez sur les 5, il y en a 2 qu'il faut faire asseoir pendant toute l'heure, c'est un autre investissement, c'est autre chose, je dirais. Maintenant, les enseignants voient les effets de leur enseignement dans le temps, etc. Ça marche assez bien. Pour les enfants qu'on garde suffisamment longtemps, ça marche assez bien. Et on les voit très largement évoluer, grandir, s'affirmer, prendre confiance en soi. Le plus gros travail dans un établissement comme le nôtre, c'est de faire prendre confiance en soi aux enfants. Des enfants qui sont déscolarisés, souvent ils sont malheureux, ils sont souffrants, ils ont des familles défaillantes, tout autour d'eux s'écroule, et on leur demande d'être performants en quelque sorte. Et c'est pas compatible tout ça. Et donc les enseignants qui viendront demain pourront expliquer ça encore mieux que moi parce que c'est eux qui le pratiquent plus. Mais je dirais que le fond de la pédagogie, c'est de faire apprendre quelque chose à chaque jeune. Chaque jour. Maintenant, combien, c'est pas toujours important.
Excusez-moi, comment évaluez-vous votre action? Vous parlez de taux de raccrochage, de taux d'insertion. Je sais bien, j'ai bien compris que le projet est ailleurs, mais si on devait l'évaluer.
On l'évalue. 85 et 95% de réussite aux examens. Sur ça, simplement. Mais étant entendu que
c'est pas forcément
un résultat relatif. Le meilleur résultat, c'est la réinsertion et la restauration de l'estime de soi. Et bien sûr, ça passe par le résultat, parce qu'un des effets sur lesquels on joue beaucoup, c'est l'effet de statut. Les gamins savent bien que c'est un enseignement spécialisé, individualisé, mais ils ne retiennent que le nom de lycée. Donc à l'école, à l'extérieur, pardon, ils voient leur copain, leur copine, je vais au lycée. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie beaucoup, c'est sur cet effet de statut. Et cet effet de statut, il ne marche que s'il y a une réussite aux examens. Donc c'est la double contrainte dans laquelle on n'est pas piégé, mais on est contraint nous aussi d'essayer de tenter de répondre. C'est qu'il faut en même temps s'occuper beaucoup d'eux au niveau personnel, individuel, psychologique, mais en même temps il faut leur apprendre quelque chose et les amener à un niveau qui ressemble au niveau des autres écoles sur le CRP de restauration. Donc pour l'instant on le mesure comme ça, mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on admet de plus en plus de jeunes qui sont en grande détresse psychologique et qui sont vraiment dans des états extrêmement limites, et pour lesquels, en ce moment, on en a 3 qui sont hospitalisés en hôpital psychiatrique, là, en cours d'année. On se plaît à penser que ce n'est pas de notre faute, peut-être que ça n'a pas marché non plus, mais c'est très compliqué de mettre en œuvre la formation quand un adolescent est complètement déstructuré, pour aller vite, ou en tout cas va très très mal. D'autant que, puisque c'est... On a un prix de journée Conseil Général. Les politiques publiques, avec les économies actuelles, ont tendance à retarder le placement de plus en plus.
Oui, mais le problème, c'est aussi le temps de placement possible avec ces jeunes. Quand je parlais tout à l'heure du temps de scolarité, c'est pas que lié à l'évolution de la scolarité, c'est lié aussi à la capacité des jeunes à être placés. Donc vous avez des jeunes que au bout d'un mois, on sait qu'on ne pourra pas les garder au-delà de 2 ans. Donc il va falloir jouer avec plusieurs critères, je dirais.
On leur en demande trop. 2 ans, ils ne vont pas tenir le coup. Il faut qu'on essaye de tout restaurer et de leur apprendre quelque chose en 2 ans. Au contraire d'autres, par exemple des jeunes qui viennent de SECPA, si on les prend relativement jeunes, on sait qu'il nous faut du temps, parce que c'est des gamins besogneux, c'est des gamins qui sont à la limite de l'handicap, s'ils sont un peu motivés, on sait qu'on les emmènera longtemps. Des gamins en errance qu'on récupère après 2 ou 3 ans, qui sont un peu vieux, qui ont 16 ans, 17 ans, je sais bien que c'est bête de dire des gamins un peu vieux, hein, mais bon, qui ont 16 ans, 17 ans, qui sont un peu en errance, qui sont un peu dans l'addiction, qui ont vécu un peu dans la rue, et qu'on récupère, déjà les faire venir tous les jours, c'est un miracle, on les tiendra pas 3 ans. Et en même temps, vu leur niveau réel scolaire, c'est quasiment de la folie d'imaginer qu'on peut faire, qu'on peut les ramener à leur niveau en 2 ans.
Mais et en même temps, il y a eu une autre raison, c'est en lien avec le rectorat, on a décidé ça parce que ça correspondrait plutôt à une terminale BEP. Voilà. Et on était un des seuls lycées hôteliers qui faisions le BEP en 1 an après un CAP, qu'on avait pris ce pari-là de longue date. Et donc, on a continué à faire ce pari-là. Et en même temps, ça coûte moins d'heures à l'éducation nationale. Donc, il y a un compromis pour tout le monde. Quoi.
Merci. Nous vous remercions. On va passer la parole à Monsieur Desrosiers.
Bien. Je vais mettre mon petit chronomètre pour essayer de faire bref. Et puis pas être, éviter d'être redondant, puisque donc, je suis directeur de Jacques Desrosiers, donc du lycée Jean-Marie Vianney à la Côte-Saint-André. C'est un établissement qui est rattaché à la Fondation d'Auteuil. Donc pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas d'ailleurs, c'est une fondation qui a comme vocation de s'occuper des jeunes en difficulté, puis qui a élargi aujourd'hui son champ dans d'autres domaines, mais toujours, je dirais, des gens en difficulté. Donc je suis directeur là-bas depuis 2006. Donc le lycée, en gros, il y a à peu près, je veux dire, 60 d'élèves. Comme on dit souvent entre nous, ça dépend l'heure de la journée, parce que on n'a pas les mêmes à 10h qu'à 8h du matin. On n'a que des jeunes en difficulté. C'est un des problèmes, je dirais, de l'établissement. La Côte-Saint-André, donc je pense que tout le monde connaît un petit peu, c'est vers la Saint-Jouard. Donc on est dans une zone rurale. On a la plupart des enfants qui sont chez nous, donc on a une dizaine de demi-pensionnaires qui viennent parce que les projets que l'on mène les intéressent. Hein. Et le reste, ce sont des enfants de l'internat éducatif, donc ce sont des jeunes en difficulté qui sont souvent envoyés par des assistantes sociales ou par des chefs d'établissement, des collègues publics ou privés qui me téléphonent. Tu peux pas me prendre celui-là, etc. Et d'autres qui sont dans ce qu'on appelle une MEX, une maison d'enfants à caractère social, qui sont, comme le collègue le disait, des jeunes qui sont placés par le Conseil général, par l'ASE ou par la PJJ, la Protection judiciaire de la jeunesse. Donc qui sont sur des, on va dire, entre guillemets, des pathologies un peu plus lourdes. Hein. J'en ai un, par exemple, en début d'année, qui était très gentil, d'ailleurs, qui était inscrit en bâtiment. Actuellement, il a 50 ans de salavier, non pas au lycée, mais en prison, parce qu'il a braqué une voiture pour rentrer chez lui l'autre jour à Vienne. Voilà. Donc ce genre de population que l'on a, c'est assez spécial. Voilà, donc une centaine de 70 jeunes donc sur ce lycée. Comme formation, une troisième DP6, 14 jeunes environ. Une ex-CLIPA, qui est devenue une DIMA cette année, que l'on aura peut-être la joie de prolonger l'année prochaine, où là, on a vraiment des jeunes en très très grosses difficultés, parce que difficultés scolaires, évidemment, difficultés psychologiques, sociales, enfin, la totale, comme dirait l'autre. Et puis après, on a deux formations, un CAP moto et un CAP bâtiment. Le CAP de moto, je dirais, c'est un CAP qui tourne bien, parce que c'est vrai qu'on parlait des motivations. Les jeunes qui sont en moto, sur la dizaine de jeunes que j'ai, je veux dire, il y en a 9 qui viennent parce qu'ils veulent faire de la moto. Donc, ils ont une très bonne dynamique. Quelquefois, je reconnais que j'enfreins le règlement, parce qu'il y en a qui viennent avec un an de retard, on essaie de les faire passer directement en deuxième année, parce qu'ils ont des réelles capacités, ça leur permet de rattraper et d'être valorisés. L'autre section, c'est maintenance des bâtiments de collectivité. Et c'est vrai que depuis que je suis directeur, j'ai vu un élève qui m'a dit « Moi, je voudrais faire homme d'entretien, puisque le CAP MBC est un CAP qui prépare à l'homme d'entretien. » Et donc, dans cette classe-là, on a beaucoup plus de jeunes de la MEX. C'est-à-dire que le jeune vient avec le Conseil général, avec son travailleur social, il mesure, voilà. On va te placer, il faut le placer. Donc, c'est fromage et dessert. Hein, il a le placement et la scolarité. Mais pour le dessert, ben, qu'est-ce que tu veux? Alors, tu veux faire quoi? Ben, moi, je veux faire carreleur. Ah, ben, écoute, il n'y a pas carreleur chez nous, tu feras maintenant des bâtiments de collectivité. Ah, moi, je veux faire plombier. Ah, ben, maintenant. Donc, ce qui fait qu'on a des jeunes qui, lorsqu'ils vont faire du carrelage, eh ben, celui qui veut faire carreleur va dire, ah, c'est bien, etc. Puis, le lendemain, quand on va faire de la menuiserie, eh ben, vous allez le retrouver quelque part en ville, en train de fumer un joint ou un truc comme ça. Donc, voilà un peu la population que l'on a, les difficultés que l'on a avec ces jeunes de motivation. Donc, dans le cas du plan régional, on avait effectivement été aidé pour mettre en place un différent nombre de dispositifs dont on m'a demandé de vous parler. Il y en a un qui n'est pas spécialement révolutionnaire, qui est le PPJ, le projet personnalisé du jeune. Je veux dire, c'est un projet qui permet de suivre le jeune, notamment avec les éducateurs. Et ça, je crois que c'est important et c'est une richesse que j'ai trouvée quand j'ai pris la direction et qu'un prof a trouvé, puisqu'il y a un de mes enseignants qui était là depuis 20 ans. Quand il y a eu une section qui s'est ouverte en moto dans le sud, là-bas, au Teil, comme il est du midi, il dit « Oh putain, je vais aller là-bas dans les hôtels, je vais changer. Ben, » change. Donc il est allé au Teil, et un an plus tard, il m'a dit « Oh putain, je peux revenir. » Ben, je dis « Reviens. » Le flux les emmena, le reflux les rapporta. Et il me dit « Mais chez toi, tu sais ce qu'il y a, c'est que quand même ici, on a les éducateurs. » Et c'est vrai, je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir ça. Quand on parle de jeunes en décrochage scolaire, même si aujourd'hui, au niveau des enseignants, il faut que les professeurs et un petit peu une fibre éducative, je pense, parce que le regard à l'égard du jeune n'est plus uniquement dans la transmission du savoir. Et si on demande à des éducateurs qui accompagnent des jeunes de pouvoir aussi un petit peu leur apporter une aide pédagogique, le prof est un prof, l'éducateur est un éducateur, et on ne va pas mélanger les deux. Et je crois que l'on a besoin de cette jonction des deux compétences si on veut mener à bien le travail avec des jeunes qui sont justement en difficulté scolaire. Il y a des bouchers, il y a des charcutiers. Qu'il faut, vous avez des bouchers charcutiers, mais chacun fait son travail. Et c'est une richesse qu'on a dans l'établissement, donc c'est projet personnalisé. Une fois par trimestre, les professeurs rencontrent le jeune avec l'éducateur qui est donc en intramuros, puisqu'on a des éducateurs référents dans la maison, puisque il y a la MEX et il y a l'IE. Donc chaque jeune a son éducateur référent interne. Il a également son éducateur dans le cas de la MEX des AEMO. Et puis avec ça, on le voit, où c'est que t'en es, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et on essaye de discuter avec le jeune, ce n'est pas évident, c'est pas simple. On parlait un peu de l'investissement des professeurs, c'est jamais évident, parce que le prof finit à 5h et l'éducateur commence à 5h, donc il faut trouver les moments où... ça fait partie du quotidien. Parmi les projets qu'on a pu mettre en place aussi dans le cas de l'aide de la région, c'était aussi l'annualisation du temps de travail. C'est-à-dire que moi, c'est une idée que j'avais depuis longtemps. C'est-à-dire que je suis parti du principe que le professeur n'a pas 4 heures d'anglais par semaine. Je prends l'exemple de l'anglais. Le professeur n'a pas 4 heures d'anglais par semaine. C'est l'élève qui a droit à 36 fois 4 heures d'anglais dans l'année. Donc, au lieu de saucissonner ainsi le programme, j'ai demandé, j'ai essayé de voir si on peut de temps en temps faire densifier, par exemple, la formation. On pense à l'exemple des arts plastiques. Le gamin, il a art plastique. Le temps qu'il sorte les pinceaux, le pot de peinture et les trucs, il n'a plus qu'à tout ranger parce que l'heure a tourné. Donc, j'ai essayé de voir avec les enseignants si on peut trouver des demi-journées banalisées, de voir des semaines banalisées, notamment dans les langues. J'ai été directeur en Maurienne pendant 10 ans. J'étais surpris de voir les gamins qui étaient d'origine turque, qui étaient dans les camps de rétention là-bas à Modane, qui au bout de 2 mois parlaient un français quasiment courant. Il y a quand même un problème. Et puis c'est vrai que si on réfléchit bien, c'est de la caricature ce que je dis, donc prenez-le au deuxième degré. Mais si vous prenez, par exemple, l'enseignement des langues, en 6e, vous avez 4 heures d'anglais par semaine. Chaque gamin, mettons 25 gamins dans la classe, 50 minutes de cours à peu près. Donc chaque gamin va parler 2 minutes, d'accord? Le temps de s'asseoir, de lever la main, machin, écrire, 30 secondes. Donc à la fin de la semaine, le gamin a parlé 2 minutes. Dans l'année scolaire, 36 semaines, allez, il y a les corrections d'examen, il y a les ponts, il y a les maladies, etc. Allez, puis on va arrondir, je vous la mets à 30 semaines dans l'année, donc le gamin parle 30 fois 2 minutes. En gros, 1 heure. Et 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première terminale, dernière terminale, il a parlé 7 heures. On a dit, monsieur, en France, on n'est pas bon pour les langues. Bon, je me dis que peut-être, ce serait peut-être plus intéressant que le gamin fasse une semaine d'anglais intensif, voire qu'il aille à New York ou au Canada ou n'importe quoi, mais qu'il fasse de l'anglais intensif pendant une semaine, et que le prof d'anglais après récupère cela et travaille différemment. Et l'avantage que j'aimerais gagner, c'est qu'on a des heures d'atelier, par exemple, avec des gens payés par l'établissement comme éducateurs techniques. Par exemple, un atelier cuisine. Et ça, c'est intéressant, un atelier cuisine, parce que c'est un atelier où le gamin réussit. Les gamins qui sont en échec, souvent, ils sont en échec depuis des années. Et quand le gamin fait son atelier cuisine pendant 2 heures et qu'il fait une pizza ou un gâteau, c'est peut-être la première fois depuis 10 ans qu'il réussit quelque chose. Il le réussit, il le mange. Donc, ça me paraît intéressant. Et à ce moment-là, le prof d'anglais peut très bien venir et dire, voilà, aujourd'hui, on va faire des gâteaux anglais et utiliser les langues anglaises dans cet atelier. C'est-à-dire ne pas prendre des heures de cours saucissonnées où c'est open your book et puis on va dire Jackie's a boy, Jenny's a girl, parce que les gamins que j'ai en tout cas, à mon avis, ça dure pas très longtemps. Et c'est vrai que ça dure généralement pas très longtemps. Les profs de langue ont la vie un peu difficile. Jean-Marie Vianney. Donc ça, c'était une chose qu'on avait essayé de voir. C'est d'annualiser un peu, de modifier. Alors ça demande un très gros travail pour le directeur que je suis. Il faut bien que justifie mon salaire. Parce que c'est vrai que régulièrement, il faut essayer de repenser les emplois du temps et puis que les enseignants adhèrent effectivement à ces modifications structurelles. Mais en début d'année, quand je donne les grilles horaires, je marque tant d'heures, vous avez votre emploi du temps, tant d'heures, mais vous devez encore tant d'heures à l'institution et aux enfants. Et on verra après, en fonction des stages, des choses comme ça, comment on les régule. Voilà, il y avait ça, il y avait l'annualisation, il y avait les PJJ, et puis il y avait une autre chose dont il fallait que je parle, que j'ai oublié. Voilà, c'est un petit peu tout ce que l'on a pu voir, un petit peu tout ça. Voilà, des élèves en très grosse difficulté, effectivement, dont il faut s'occuper. C'est une riche expérience. C'est très fatigant. Il faut être schizophrène. Parce que le problème qu'il y a là-bas, s'il y a quand même un problème qui est à Jean-Marie Vianney qui est important, c'est qu'on a du concentré. On n'a que des élèves en difficulté scolaire. Et ça, c'est une chose que je crois que j'ai travaillé à Villeurbanne au début de ma carrière, au Charpen, là-bas, avec des gamins de Vaux-en-Velin. Vous aviez une classe avec une courbe de Gauss. Si vous voulez, elle est très bon, les bons, les moyens, etc. Là-bas, on a aussi une courbe de Gauss, mais en ayant pris que les plus mauvaises. Donc, on a les plus mauvais des mauvais, etc. Et donc, quand vous avez le travail, par exemple, avec les parents qu'on a évoqué tout à l'heure, est très difficile. Nous, on voudrait essayer de faire des tripartites avec les parents. Mais d'une part, la composition géographique fait que les parents sont très loin. Souvent, n'ont pas de moyens de locomotion. Le jour, j'ai convoqué une mère. Ah, monsieur, qu'est-ce que je vous dis? Moi, j'ai pas de voiture. Ah, ben, on va essayer de vous chercher. On va chercher, non. Voilà, donc, je veux dire, on est sur des systèmes, sur des situations très difficiles. Et je pense que dans la salle, il y en a qui connaissent ça. Moi, j'ai découvert un autre univers, je veux dire, vraiment digne de Zola. Je veux dire, Zola n'est pas mort, malheureusement. Et, je dis, il y a des situations, où il faut quand même s'accrocher et prendre du recul par rapport aux événements. Si, voilà, la dernière chose que je voulais dire, ça me revient. C'est justement les enseignants. C'est-à-dire que l'enseignant se retrouve seul. L'enseignant, c'est un métier de solitaire. Il est dans sa salle. Donc moi, une idée que je voudrais l'année prochaine, c'est de mettre des éducateurs avec les enseignants dans la classe pour qu'ils puissent travailler conjointement. Et deuxième chose, on a mis en place, comme je disais tout à l'heure, les analyses de la pratique. Parce que où est-ce que les lieux, où l'enseignant peut-il, à un moment donné, décompresser? Conseil de classe? Pas tellement lieu. Dans le bureau du directeur, même si on est sympa, cool, bon, on est quand même le directeur, on est une institution. Autour de la machine à café, la salle des profs, généralement, c'est pas de meilleur effet, je veux dire. Donc, j'ai demandé, c'était très difficile, parce qu'il y a, j'ai vu, moi, je donne quelques cours au centre de formation là-bas pour les jeunes profs des écoles. La jeune génération montante, à mon avis, est vraiment très impliquée, très bien formée de ce côté-là, et elle a intégré ces notions d'analyse pratique. Par contre, toute la génération de post-baby-boom, dont je suis tout petit, mais, je dirais au-delà de 45 ans, c'est pas évident de gérer cette analyse pratique. Donc, ça a été un travail que j'ai dû remettre plusieurs fois sur le tapis. Aujourd'hui, j'y suis arrivé. Il y a une équipe qui va. J'ai le psychologue qui est avec. Donc, il y a un psychologue qui intervient, effectivement, qui accroche, qui marche bien. Et c'est un plus parce que ça permet aux profs de se retrouver, de dire et de parler. Et ça, je crois que c'est important qu'il y ait des lieux de parole dans les établissements scolaires. Voilà. Maintenant, si vous voulez venir, vous venez. J'aimerais bien aller. On s'ennuie jamais, comme dit le slogan. Vous pouvez venir. N'hésitez pas. Vous êtes, non, mais sérieusement, vous pouvez venir voir. Vous serez les bienvenus. C'est un univers à découvrir, je veux dire. Mais, je vous le redis bien, pour moi, qui me pose quand même problème, qui est vraiment un problème, je dirais, de l'éducation nationale, s'il y a des gens de l'éducation nationale. Parce que je reçois quand même des jeunes, j'ai le collège aussi derrière, qui sont déscolarisés quelquefois depuis quand même 6 mois, voire 1 an. Et qui devraient être à l'école, au moins de 16 ans pour le collège. Ils sont déscolarisés. J'ai des gamins qui sont fait envoyer de X établissements. La question, c'est où vont-ils? Alors, ils arrivent, effectivement, je les prends. Je les prends, mais quels moyens? Bon, on fait ce qu'on peut. Mais le problème, après, c'est que vous concentrez toutes les difficultés dans le secteur, je veux dire. Et comme disait le collègue, on peut plus travailler pareil avec des gamins qui, je vais pas vous dire ce qu'ils me disent parce qu'il y a des dames dans la salle, donc je voudrais pas choquer vos chasses oreilles, mais je veux dire, il y a des fois, je vais dire à la prof de langue, j'écoute, tu parles très bien anglais, apprends un peu le langage de la banlieue, tu verras que, voilà, quand un gamin te dit que tu lui casses les, c'est un signe de bienvenue et d'ouverture du dialogue. Il faut pas le, oh, mais ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il s'est dit. Tout que j'avais dit au gamin, j'ai dit, mais attends, tu te rends compte de ce que tu dis à la prof, c'est une dame. Mais que je lui dise, puisqu'elle me casse, je dis qu'elle me casse. Oui, ben d'accord, bon. Donc voilà, il y a toute une dialectique à mettre en place, une observation des jeunes. Voilà, donc vous pouvez venir.
Oui, d'accord. D'autant plus qu'on va rebondir sur des éléments, parce qu'il y a des éléments assez proches dans les actions, donc on aura l'occasion de les approfondir. J'en vois même mes enseignants se former à Vianney, j'en ai un actuellement qui fait un petit séjour, comme quoi les passerelles sont possibles. Alors moi je suis le directeur général d'une association, ça s'appelle CREFI, Centre Régional d'Enseignement, d'Éducation, de Formation et d'Insertion, c'est à Grenoble. Je dirige cette association et je dirige également un des établissements de l'association. C'est une association qui gère 5 établissements, des lycées professionnels et technologiques sur Voiron, Grenoble et Alvar-les-Bains, plus un centre de formation avec une unité de formation d'apprentis. Donc 3 sites géographiques et 5 établissements. On était très impliqués dans le plan de décrochage, donc je m'arrêterai seulement sur quelques actions, mais on va essayer de les décortiquer. Alors, c'est un peu plus traditionnel. Le public est un public en difficulté. Alors, zone, il y a les 3 zones, hein, périurbain, urbain et rural, avec des élèves effectivement en difficulté assez nombreuses, ce qui a nécessité l'entrée très active dans le plan de décrochage. C'est moins flagrant que les 2 établissements qu'on vient de présenter. Par contre, ce sont des tailles intermédiaires. Là, ce sont des établissements de 200, 200 et 400. Donc, ce sont des établissements de petites et moyennes tailles, mais pas des micro-établissements comme on vient de voir. Donc, par contre, des établissements sous contrat plus traditionnels. Hein, donc là, pas de public mixte, éducateur, il y a une vocation sociale dans l'association qui est née en 1924 avec une vocation sociale, mais il n'y a pas de public mixte, même si les enseignants sont parfois rémunérés avec un double statut, c'est-à-dire le statut d'enseignant, et parfois, pour un certain nombre de leurs missions, ils sont rémunérés sur un double contrat par l'association, en particulier dans la formation ou bien dans les compléments d'intervention. Alors le diagnostic au départ, enfin ça fait très longtemps qu'on intervient sur le secteur des élèves en difficulté. Au départ, le constat des enseignants, c'était de dire les actions sont très fractionnées. Alors on fait une action, puis une autre l'année d'après, ou un enseignant, et puis l'année d'après un autre. Enfin, donc ce problème du découpage, le côté très ponctuel, une année scolaire, et puis on arrête, on reprend. Donc l'idée, c'était vraiment de bâtir un projet dans la durée, global et transversal. C'est-à-dire d'essayer vraiment de décortiquer la problématique des élèves en difficulté, d'essayer de prendre un peu le problème par tous les bouts en même temps. Alors tout à l'heure, quand la région est intervenue, effectivement, on a dit à un moment donné, ça a cessé au bout de 3 ans. Nous, on le regrette. On le regrette énormément parce que les actions qui ont été mises en place dans les 3 premières années nécessitaient absolument la dynamique de la poursuite. Il aurait fallu effectivement un cycle complémentaire effectivement pour installer un certain nombre de pratiques dont je vais vous parler tout à l'heure. Le raccrochage étant une démarche tout à fait différente, on va s'y inscrire, mais elle est tout à fait différente. Alors la problématique en fait qu'on a posée au départ, c'était que on avait mis tout le paquet autour des élèves dans un temps. C'est les années 80, l'élève au cœur du système, enfin bon voilà, donc tout tourner autour des actions à destination des élèves, on va améliorer les résultats scolaires, etc. On avait oublié quand même que l'équipe éducative, enfin l'institution scolaire, c'est 4 piliers, enfin c'est les familles, on en a parlé à chaque fois, c'est les élèves, mais c'est les enseignants, quand même, c'est important, et puis l'institution en elle-même, l'école à proprement parler. Donc on essayait de remettre un petit peu tous les partenaires un petit peu en piste. Et puis les champs également. C'est qu'on s'était rendu compte qu'on intervenait essentiellement sur la pédagogie. C'est-à-dire qu'on essayait de mettre en place des actions qui étaient finalement des actions de compensation pédagogique. Or, les terrains d'intervention de l'école sont pas que sur le champ pédagogique. On vient de le voir à l'instant pour des élèves en très grande difficulté, mais même des élèves lambda qui sortent de collège arrivent quand ils sont en difficulté, quand ils sont décrocheurs, quand ils sont effectivement à profil à risque, ils arrivent avec effectivement des difficultés familiales, psychologiques, en sociologie, psychologiques. Donc il fallait intervenir sur ces champs. Et également physiologiques. Alors ça, c'est un peu nouveau, mais les découvertes des neurosciences nous ont obligés aussi à nous reposer des questions sur les mécanismes de la cognition, sur les problèmes de dys, hein, les dyslexies, les dyspraxies, etc. Donc retravailler aussi sur ces problématiques. Et puis un dernier angle d'attaque qui était de se poser la question de l'école. Il n'y a pas que les élèves qui sont en problème quand ils décrochent. C'est aussi, d'une façon générale, l'institution. Est-ce que l'institution propose les moyens de mettre en œuvre les bonnes solutions? Donc voilà pour le diagnostic. Et l'idée, c'était de faire avec tout ça. Un petit peu de remettre en question tous ces éléments-là. Dans les actions les plus intéressantes, alors je reprends celles qui ont été évoquées, par exemple, une action très forte qui était à un moment de dire comment les enseignants peuvent travailler en dehors de leurs 18 heures de présence de face à face auprès des élèves pour mettre en place l'ensemble de ces actions. Ça, c'est une vraie question de fond, c'est un vrai problème. Donc il fallait décortiquer ce problème-là. Comment faire pour que on puisse avoir 8 élèves en face de l'enseignant, quand l'enseignant me dit « Mais à 30, mon cours de maths, c'est impossible, leur niveau est trop faible, ils sont en CAP, ils ont 3 ans de retard, c'est trop compliqué, je peux pas faire mon cours avec 30 élèves. » Donc, à chaque fois, d'essayer de revoir comment on pouvait faire. Donc, on a utilisé l'annualisation, effectivement, donc des blocs de temps posés dans l'année, qui, en termes de résultats, donc ils sont plus courts en temps de formation élève, mais qui sont plus efficaces en productivité pédagogique. C'est-à-dire que l'enseignant obtient un meilleur résultat en moins de temps, et ça lui convient. On a utilisé aussi le raccourcissement de la séquence pédagogique. Donc de 55 minutes, enfin les enseignants sont rémunérés 60 minutes. Bon, on produit traditionnellement 55 minutes de face-à-face pédagogique. On a réduit à 50 minutes de face-à-face effectif. Mais calculé sur une petite équipe, c'est 5 minutes par séquence, fois 18 heures, c'est 5 minutes fois 18, fois 20, 30, 40 ou 50 enseignants. C'est donc, en termes de DHG, quelqu'un a prononcé le gros mot tout à l'heure, c'est donc effectivement des moyens supplémentaires redistribuables. Et ça en fait beaucoup. Ça en fait quand même un certain nombre. Pardon. Alors ces moyens, ils ont été redistribués en particulier pour du dédoublement, de l'accompagnement des élèves ou du soutien, ou des dispositifs collectifs. C'est-à-dire le travail collectif des enseignants, le travail de pilotage ou le travail de coordination. Voilà pour un des éléments fondamentaux. Et ensuite, le deuxième élément structurel, c'était de travailler sur les espaces. Les enseignants disaient toujours, oui, mais alors voilà, je fais cours à 30 élèves, ma salle de classe, le principe, c'est un prof, une salle, une heure et un groupe. Alors évidemment, ça pose vite un problème, parce que si je coupe la classe en trois, comment il fait pour mettre ces trois groupes d'élèves? Enfin voilà, physiquement, en termes de matériel, ça pose des problèmes. Donc dans le cas de notre labellisation au lycée des métiers, il y a un an et demi, on a refait sur nos trois sites un travail sur les locaux. C'est-à-dire d'essayer de réfléchir comment on pouvait décloisonner les salles de classe pour créer des plateaux plus vastes, pour permettre aux enseignants de travailler en atelier, sur le principe des ateliers, c'est-à-dire d'éclater la classe de façon bien plus facile que quand on lui met à disposition seulement 45 mètres carrés avec 32 tables et 32 chaises. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont été revus en termes logistiques dans les établissements. Voilà, je ne vais pas entrer dans d'autres détails. Si vous avez des questions sur ces éléments-là, on peut peut-être entrer dans le... annualisation, raccourcissement. On a également un emploi du temps provisoire en début d'année, ça c'est assez important. C'est emploi du temps provisoire qui permet effectivement aux enseignants de diagnostiquer les besoins classe après classe, groupe après groupe, pour mettre en place l'emploi du temps définitif seulement après 5 semaines. On a parlé tout à l'heure d'un dispositif un peu équivalent. Bon, ce qui permet effectivement de... Parce que bon, voilà, les classes, les primo-arrivants, évidemment, on ne les connaît pas suffisamment pour organiser les séquences. Ça veut dire quand même que les enseignants travaillent en équipe. Alors là, on rejoint la dynamique d'équipe des petits établissements. Ça nécessite une volonté particulière de travail collectif et de partage du projet. Parce que ça veut dire que si je suis un enseignant avec une classe favorisée, entre guillemets, c'est-à-dire que je constate que ma classe est plutôt au niveau, qu'elle est rapide, que je fonctionne pédagogiquement bien avec, je vais donc accepter de libérer un peu de moyens avec ce groupe pour que mon collègue, qui lui a un groupe plus en difficulté, plus lent, plus en confronté à d'autres problématiques, puisse éventuellement récupérer une partie des moyens pour dédoubler davantage ou faire des groupes de plus petits. On envoie également les élèves systématiquement en stage, non pas en même temps, hein, évidemment. Quand on envoie la classe en même temps en stage, ça libère tous les enseignants. C'est l'avantage. Mais par contre, les envoyer en stage par groupe, ça permet aux enseignants restants, aux enseignants, de n'avoir en face qu'eux qu'une demi ou qu'un tiers de classe. Et évidemment, cette période de temps où il n'a qu'une demi ou un tiers de classe, quand en plus ces groupes-là sont dédoublés, on arrive en fait au résultat que le prof de mathématiques a donc 5 élèves devant lui, pendant X semaines, ce qui lui permet de faire de la remédiation qu'il n'arrivait pas à faire en dehors de ce type de dispositif, parce que face à une classe normale, il ne pourrait pas le faire, etc., etc., puisqu'on a questionné tous les éléments de fonctionnement d'un établissement scolaire.
Je suis désolé, j'ai encore une question. Juste un commentaire sur le dernier point que vous venez de présenter, sur la... sur le dédoublement et le départ des jeunes en formation d'entreprise. Ça suppose que par rapport au texte, pareil, hein, l'ensemble de l'équipe pédagogique ne participe pas au suivi des élèves en PFMP.
Si, alors ça pose une question fondamentale, c'est le face-à-face pédagogique. Enfin, c'est une vraie question, mais vous êtes bien placé pour... parce que c'est une vraie question pour l'ensemble du corps enseignant et pour les établissements scolaires. C'est calcule-t-on le temps enseignant en face-à-face pédagogique réel, ou déduit-on du temps enseignant la disparition du face-à-face pédagogique? C'est-à-dire que quand la classe est en stage, enlève-t-on évidemment ces heures, ce que les textes normalement prévoient, hein, en réalité, on forfaitise leurs interventions en stage. Alors on n'en est pas là, parce que moi j'ai des enseignants qui sont payés par l'État, qui sont un peu moins impliqués dans un projet social que dans les deux autres établissements, mais qui sont néanmoins... assez impliqués dans le projet d'établissement, mais ils sont aussi très vigilants J'ai des délégués syndicaux, j'ai Sud, j'ai la CGT, il y a tout le monde. Hein, c'est tout à fait actif sur ce terrain-là. Donc on est très, très en discussion sur cette phase-là. Donc on n'a pas réussi à mettre en place un système où on enlèverait, on recalculerait le temps d'enseignement au face-à-face pédagogique réel. Mais par contre, les enseignants ont négocié, en fait, ont trouvé qu'il était assez malin de découper les stages. Alors évidemment, ça fait un peu plus de temps de travail, parce qu'il faut quand même aller visiter les élèves en entreprise. Donc, à un moment donné, si j'ai un peu court, alors on s'arrange pour que ce soit possible, hein, c'est pas la totalité des cours, on s'arrange pour que l'enseignant ait quand même du temps disponible pour visiter les élèves, mais évidemment, ça crée, on va dire, pour certains enseignants, une lourdeur supplémentaire. Mais en face de ça, hein, le bien-être professionnel, la qualité pédagogique et l'efficacité de leur travail, qu'ils reconnaissent, qu'ils acceptent, on retrouve là un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là où ils trouvent leur compte, probablement, puisqu'ils acceptent de le faire, c'est que le résultat du travail ou la qualité du travail ou la lourdeur du travail est peut-être plus confortable. Oui, si. Alors c'est très intéressant le travail qu'on fait avec les inspecteurs qui nous visitent, c'est d'essayer de, bon, déjà d'expliquer le projet, hein, puisque les enseignants du coup travaillent d'une façon un petit peu différente, et d'essayer effectivement d'aller dans le sens des solutions. Donc la discussion, elle va porter sur l'efficacité pédagogique. Souvent, c'est de parce qu'il faut qu'on contrôle ça. Tout à l'heure, on parlait effectivement de, c'est-à-dire que si je raccourcis le temps de face à face pédagogique, face à le nombre d'heures de cours dans une discipline pour l'élève, il faut offrir la garantie néanmoins que le résultat est satisfaisant. Hein. Il faut les mettre en balance. Et là, l'inspecteur a un rôle à jouer important pour conseiller les enseignants, parce que la technique est différente, le découpage est différent, le rythme de l'enseignement est différent. Et comme l'individualisation est plus forte, ça pose des problèmes de didactique aux enseignants. C'est évidemment, hein, fractionner une classe en trois pendant... vous avez un groupe 15 jours, un autre groupe 15 jours, un autre groupe 15 jours. Ça pose un problème de fonctionnement et de rythme, hein, des séquences dans l'année. Et ça, les inspecteurs ont un rôle important à jouer pour essayer d'aider les enseignants à trouver les astuces nécessaires pour que ça puisse fonctionner.
Vous vous sentez suivi?
Ah oui, 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 globalement. En lycée professionnel, l'enjeu, c'est de garder les élèves. Donc, en fait, nous, on avait une problématique de décrochage et on a réduit très considérablement le décrochage, ce qui veut dire qu'on arrive à garder la presque intégralité des élèves. Il reste maintenant un taux de décrochage très, très faible en cours de parcours. Ça veut dire que les propositions qui sont faites aux élèves permettent de répondre à au moins un certain nombre de leurs questions. En plus de tout le reste, hein, en plus des points écoute aux psychologues, des groupes de parole, de l'analyse de la pratique enseignante. Les enseignants, pendant 5 années consécutives, se sont formés à l'analyse de pratique et pratiquent régulièrement le travail. Alors pas une fois par semaine, j'aimerais que ce soit plus régulier, hein, c'est moins régulier que ça, mais un travail qui consiste effectivement à mettre à plein l'exercice de sa pratique. Les assistants sociaux le font, les éducateurs le font, les soignants le font. C'est assez inconcevable que les enseignants qui sont en contact direct avec des difficultés fortes ne puissent pas faire ce travail-là. Et ça a beaucoup aidé les équipes, je dirais, à faire ce travail collectif. Par contre, il fallait pouvoir le rémunérer. Hein, c'est la question qui était posée tout à l'heure. Pour pouvoir le rémunérer, il faut inventer un certain nombre de... C'est un jonglage permanent pour les chefs d'établissement ou le directeur général que je suis, parce qu'il faut quand même trouver des moyens à un moment donné pour rémunérer les enseignants. Alors dans un établissement privé, on peut faire le choix évidemment de les rémunérer un peu sur les fonds propres du fonctionnement de l'établissement, mais il faut aussi les trouver dans le fonctionnement global de la structure. Et je pense qu'on peut en trouver un peu, hein, quand même, quand on met les choses bien à plat, le problème de la durée des séquences, le problème des stages, c'est quand même très problématique. Il y a quand même, à un moment donné, une utilisation plus effective des moyens qui est intéressant de poser. C'est d'essayer de voir ce qu'on fait de toutes ces heures de face-à-face qui disparaissent dans une année scolaire, hein, et peut-être de les rendre plus utiles ou plus efficaces. Et plus confortables pour les enseignants. Hein. C'est au final aussi pour que le métier s'exerce de façon plus sereine.
Sur l'annualisation, les horaires du lycée professionnel sont annualisés. Donc,
Oui, le cadre le permet.
Le cadre le permet. Une question sur les 50 minutes, puisque nous, on a eu une expérimentation même en allant à 45 minutes. Est-ce que vous avez déposé un dossier d'expérimentation pédagogique ou pas?
Non, on n'est pas en expérimentation pédagogique. C'est une expérimentation qu'on fait sur un de nos sites en interne et sur un deuxième. Et effectivement, ça pourrait le devenir. Nous, on aimerait effectivement l'être, on le déposerait pour 45 minutes. Il nous semble que la durée, en fait, judicieuse, c'est en fait 45 minutes. Ce 45 minutes et 45, c'est 1h30, et ça fait une séquence longue. Et une séquence très courte de 45 minutes suffit avec notre public la plupart du temps. Ça, c'est pour la durée de séquence. Effectivement, il faudrait que ce soit expérimental. Je sais que plusieurs établissements le tentent déjà, hein, donc c'est vraiment intéressant.
On a essayé.
Sur l'annualisation, c'est un peu plus compliqué, hein, parce qu'évidemment, c'est plus facile dans une petite structure. Enfin, c'est à la fois plus facile et plus difficile dans un petit lycée, parce que j'ai parfois qu'un enseignant ou deux dans une matière, évidemment, pour annualiser. C'est parfois un peu plus compliqué, parce qu'il faut trouver un face-à-face. Alors, si j'annualise, il faut que je trouve un deuxième enseignant qui structure ses cours de la même façon. Donc ça fonctionne, en gros. Mais par contre, l'annualisation donne des résultats très, très intéressants. Or, c'est valable pour l'anglais, enfin pour les langues, ça c'est flagrant. C'est valable pour les arts plastiques, ça c'est flagrant, mais c'est aussi valable pour d'autres matières. Et les nouveaux référentiels, la réforme de la voie professionnelle permet de travailler dans cet esprit-là. Hein, le projet professionnel permet de travailler avec beaucoup de transversalité. Hein, on vient d'être retenu pour un projet Comenius, donc nos élèves vont traverser l'Europe, là, aux 7 pays. C'est très mobilisateur. Tous les projets sont très mobilisateurs. Pour les élèves qui ont des difficultés de motivation, de concentration, tout ce qui les mobilise, hein, je veux dire, à côté du travail purement magistral de transmission du savoir, c'est très intéressant parce que ça capte l'attention, c'est valorisant, ça donne une image positive de soi. Et grâce à ça, on se remet à apprendre. Enfin, l'acte d'apprendre n'est pas préalable à l'image positive de soi, c'est l'inverse. Hein. Il faut d'abord avoir une conscience positive de... Le fait d'apprendre, c'est bien, je suis bien ou je vais devenir bien. Et à partir du moment où on a réglé ces problèmes-là, on peut enfin peut-être passer à autre chose. On a également deux classes de DP6 hein, qui ont servi d'expérimentation avec des démarches très particulières, avec beaucoup, beaucoup d'heures de dédoublement, qui ont permis aussi de tester donc des élèves très décrocheurs au collège, hein, qu'on recevait à la fin de la quatrième, et qui, pour le coup, obtiennent des résultats absolument... Parfait, très bon résultat aux examens et très bonne intégration professionnelle. Donc ça veut dire que la remise en route est possible après le collège.
Oui, on imagine aussi que vous devez expliquer votre démarche aux entreprises dans le cadre des PFMP. Bon. Comment ça se passe alors?
Alors on a la chance d'être sur des petits...
Périodes de formation en milieu professionnel.
Sur les périodes de formation. Alors l'entreprise, elle est au cœur du dispositif dans la voie professionnelle. Il faut effectivement les partenariats soient très développés. Alors on a la chance, c'est sur des secteurs et des bassins très, très délimités, on va dire, dans lesquels on peut avoir des partenariats très étroits. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup d'interventions des entreprises. Des entreprises qu'on connaît bien, qui permettent d'accueillir des élèves à profil. C'est-à-dire qu'envoyer un élève en stage dès la troisième, c'est pas n'importe où et n'importe comment dans n'importe quelle entreprise, et ça nécessite une relation particulière. Et comme on fait un peu d'apprentissage également, on a un lien un peu plus étroit avec les entreprises. Ça, c'est ce qui aide beaucoup. Ça nécessite d'être expliqué. Mais j'ai pas parlé de la communication, mais on a mis en place les ENT sont très pratiqués dans les établissements aujourd'hui, en fait. Mais nous, on l'utilise énormément, les espaces numériques de travail. Parce qu'à un moment donné, le déficit de communication avec l'entreprise, avec le tuteur, avec les familles, nécessitait qu'il y ait un lien permanent. Justement pour régler parfois des problèmes de distance, etc. Alors, tout le monde n'a pas Internet, donc il fallait aussi trouver des réponses pour compenser l'absence d'Internet. Mais de rester en lien en permanence avec l'entreprise, le tuteur, sa famille, l'élève. Le professeur pouvant travailler individuellement avec l'élève, puisque l'ENT permet, évidemment, dans un espace privé, de travailler individuellement avec un élève, qui, lui, était absent ou n'a pas compris le cours ou était très distrait, pouvant par ce biais-là reprendre... avec l'aide d'un adulte ou sans l'aide d'un adulte, le travail qui a été fait en classe. Donc les outils numériques sont aussi à mettre au service de ce travail-là.